Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, Courant de la pensée musulmane contemporaine, première partie, de la collection Questions actuelles.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bien, d'abord j'aimerais dire en préambule de ce qui va s'apparenter finalement à un cours particulièrement dense en fait, une conférence assez dense sur Hassan el-Banna, rahimahullah, avec la présentation de sa vie et de son engagement dont j'aimerais dire en préambule qu'il est particulièrement difficile de présenter cela de façon condensée parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension, tout à la fois une vie, mais également une conception de l'islam, et en plus de cela, un ensemble d'activités, d'actions et de réalisations sur 20 ans, 22 ans d'activités qui sont particulièrement denses, donc particulièrement nombreuses. Ces réalisations. Donc il apparaît assez difficile de tout dire en si peu de temps. Donc la première chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est que je m'en tiendrai à des aspects fondamentaux, tant de sa vie, puisque je diviserai cette intervention en trois parties. D'une part, sa vie avec quelques dates, des moments particuliers, parce que je crois qu'il est particulièrement nécessaire d'avoir dans l'idée une vie devant soi, avec des moments, avec des dates, avec des réalisations, avec des évolutions. Ce sera la première partie. La deuxième partie concernera plus spécifiquement, parce qu'également ici, il y a une nécessité à le faire, la conception de l'islam avec les priorités, les aspects spécifiques qui concernent tout à la fois la foi, mais également le rapport au texte, mais également le rapport à la jurisprudence, mais également le rapport à la société. Nous en dirons un mot, ce sera notre deuxième partie. Puis ensuite, dans la troisième partie, une présentation plus claire, plus concrète, des réalisations tant sur le plan social que sur le plan économique, voire même également sur l'engagement politique. Donc trois moments, et nous allons commencer le premier avec la vie de Hassan el-Banna. Pour dire d'abord également une chose, c'est que je vais beaucoup aujourd'hui et exprès m'en tenir à ce qu'il a dit ou ce qu'il a écrit. Donc en de nombreuses circonstances et en particulier bien entendu à partir de la deuxième partie, je fais référence à des textes traduits de l'arabe. C'est un travail qui a été fait et qui sera publié inshallah au mois de septembre dans un livre qui présente la vie de Hassan el-Banna en près de 350 pages, donc vous imaginez bien qu'en une heure et quart, c'est difficile de résumer, de condenser cette vie et cette œuvre. Mais il y a deux choses que j'aimerais dire en préambule. La première, c'est que la particularité, ce sera de lui donner beaucoup la parole, de faire en sorte que l'on écoute et que l'on lise et que l'on entende ce qu'il dit. Donc ce sera une conférence, j'ai pas tellement l'habitude de le faire de cette façon-là, c'est un peu neuf pour moi, mais ça me paraît important de restituer la parole et que l'on entende bien ce qu'il dit, avec une partie de commentaires bien entendu. Et puis l'autre chose qui étonnera peut-être un certain nombre des frères et des sœurs qui sont ici, c'est que j'enlève totalement de l'exposé que je fais toute part d'anecdotes. Il s'agit ici d'un travail très très spécifique d'analyse d'une pensée, d'une vie sur un plan presque académique au sens où l'on a devant soi une vie et qu'il convient de l'analyser dans ce qui a été fait, été dit, et non pas que l'on s'attarde ou que l'on s'arrête à des anecdotes qui en soi sont importantes mais qui ne sont pas le sujet de ce soir, parce qu'il faut aussi que l'on s'habitue par rapport à certaines de nos références, par rapport à la vie de nos ulama, de savoir les aborder de façon objective et non pas toujours au travers d'une idéalisation, même parfois, et parfois l'anecdote qui prend le pas sur un certain nombre de faits concrets. Et c'est par les faits concrets que l'on comprend également qu'on a en face de nous un homme croyant qui a en face de lui une société et vis-à-vis de laquelle il agit, il interagit, il construit, il prévoit, il argumente. Et je crois qu'aussi de ce point de vue-là, il est nécessaire de faire ce travail d'analyse. Alors commençons d'abord par aborder sa vie, qui va être, je l'ai séparé en 5 parties. Le premier moment, c'est que Hassan el-Banna est né en 1906 dans un village au nord du Caire, el-Mahmoudiya, où son père, Abdelrahman el-Banna, est tout à la fois imam d'une mosquée et réparateur de montres. Il naît en 1906 et il est le premier enfant d'une famille le premier enfant d'une famille avec cette particularité aussi, c'est que par rapport à leur éducation, le propre père de Hassan el-Banna travaillait et avait étudié à Alexandrie auprès de quelqu'un qui était en contact avec des personnes qui eux-mêmes faisaient partie de l'Urwatul Wuthqa, qui est en fait l'association qu'avait fondée Al-Avrani et dans laquelle avait participé Mohamed Abdou. Il y a déjà un lien par rapport à ce que nous avions vu dans notre première exposé, par rapport à toute cette tradition-là, et il était en contact. Le deuxième élément qui est très important, c'est que le père de Hassan el-Banna a un souci. C'est qu'à ses 4 enfants, il va à chacun d'entre eux faire en sorte qu'ils étudient un mazhab, c'est-à-dire une école juridique spécifique. Donc il a déjà cette perception large, non pas de l'école qui enferme, mais de l'islam qui se comprend largement au-delà des écoles. Hassan el-Banna lui-même étudiera le rite hanafite, mais tous les autres auront une école, et déjà ce sera très très important pour Hassan el-Banna, parce que toute cette compréhension large de l'islam qui unit au-delà des écoles qui pourraient diviser, c'est une constante qu'il appliquera tout au long de sa vie. Alors, il est donc, il ira à l'école justement dans ce village, et là il aura un professeur, Zahran, Mohamed Zahran, qu'il rappelle dans ses mudhakkirat. Les mudhakkirat de Hassan el-Banna, c'est le mudhakkirat de Da'wa wa Da'iya, qu'il a écrit jusqu'en 1940 et qui rapporte les faits, où il explique un tout petit peu ses expériences. Et ce n'est pas un hasard qu'il explique à ce moment-là qu'il a été très touché par ce professeur, pour une raison particulière dont il faut se souvenir et qui est intéressante, c'est sa façon particulière d'établir un rapport avec ses élèves, faite et emplie d'affection, d'écoute et de rigueur et d'exigence. Hassan el-Banna, dans tous les projets d'école par la suite, insistera beaucoup tant sur l'exigence que sur le rapport affectif et le rapport fondamentalement basé sur l'humanité entre le professeur et l'enseignant. Et il dit dans ses mudhakkirat qu'il l'a eu de cet homme-là, comme quoi, dans la jeunesse, ces choses-là l'ont marqué. Ensuite, donc, à partir de 1919, il se rend à l'école gouvernementale de Damanhour et il finit, c'est un accord qu'il avait avec son père, il finit d'apprendre le Coran seul, alors qu'il en avait déjà plus de la moitié, il terminera l'apprentissage du Coran en entier seul. Et déjà, à l'âge de 12 ans, il est président d'une association, l'Association pour la bonne conduite morale. À 12 ans, il est élu président de cette association, et à partir de 12 ans, toute la vie de Hassan el-Banna va être liée avec une ou l'autre des associations. Toute sa vie, il se retrouve soit secrétaire général, soit l'association, pour ensuite terminer à partir de 1928, nous le verrons tout à l'heure, avec l'Ikhwan al-Muslimoun. Donc, ce premier élément marque également de la personnalité de Hassan el-Banna, et puis aussi, à partir de cette époque, il rencontre dans cette ville une tariqa, c'est-à-dire un groupement soufi, Al-Husafiyya, dans laquelle il va s'inscrire. Et il met en évidence, toujours dans ses mémoires, le fait qu'ils sont tout à fait dans la lignée orthodoxe, se basant sur le Coran et la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans cette perspective, apprenant dans cette tariqa une chose, l'exigence de spiritualité, l'exigence de silence, l'exigence d'isolement également, avec un cheikh qui en permanence dit une chose, deuxième enseignement fondamental que l'on préserve ici, en toutes circonstances, éviter les sujets qui divisent pour rappeler la foi qui unit. Et Hassan el-Banna le dit lui-même, il n'oubliera dans ses mémoires, il n'oubliera jamais cet élément-là. Et C'est ça aussi qu'il faut connaître. Dans l'un de ces secrets de cet homme-là, c'est tout à la fois, bien entendu, on y reviendra, sa foi en Dieu et la nature, la qualité de sa soumission, la qualité de sa foi, mais une chose très très particulière qu'on voit tout de suite, sa qualité, sa perspicacité et son souci de tirer parti de chacune de ses expériences. À tout moment, il analyse ce qui lui arrive, perçoit dans les gens ce qu'il enseigne, même chez le plus modeste, et en tire parti à chacune des étapes de sa vie. Et donc ici, c'est un premier élément, Al-Khosafiyya, sur laquelle nous reviendrons. En 1919, là également, il participe aux premières manifestations en Égypte, il a 13 ans, aux premières manifestations en Égypte contre la présence anglaise. Et vous allez voir que dans sa vie, cette dimension-là va être également importante. Et puis, on peut dire également, dans cette évolution, que pendant toute cette période-là, il est déjà impliqué de manière associative, et déjà, quand il a 17 ans, il pense à créer un journal, Shams, qui apparaîtra de numéro et qui cessera. Donc on perçoit dans cette première partie de la vie de Hassan el-Banna une dimension extrêmement rigoureuse dans son propre apprentissage, il finira bien entendu l'apprentissage du Coran, et en même temps son implication sociale. Deuxième section, si l'on peut dire, dans sa vie, celle qui va de 1924 à 1927. Et là, Hassan el-Banna entre et décide d'entrer, alors qu'il aurait pu se rendre à Alexandrie pour suivre un enseignement traditionnel du type de celui d'Al-Azhar, il décide d'aller à Dar el-Uloum. Avec une lecture, celle qu'il n'oubliera jamais, celle dont il dit, si j'avais eu à faire le commentaire d'un texte, j'aurais fait le commentaire de celui-ci, Yahya Ulum ed-Din, de Abu Hamid el-Ghazali, rahimahullah, et c'est en lisant Abu Hamid el-Ghazali qu'il était à un moment donné en train d'hésiter. Est-ce que je vais me lancer dans la science pour savoir, ou est-ce que je vais me lancer dans la science qui, à partir de cette science, va me permettre de faire un travail utile? Et à ce moment-là, il rencontre le texte de Abu Hamid el-Ghazali qui parle d'une obligation pour le musulman de savoir ce qu'il faut pour une pratique et un engagement comme il faut. Et c'est ce choix qu'il fera en allant à Dar el-Uloum, qui est considéré à cette époque-là comme une école moderne. Pourquoi ? Parce qu'il y a non seulement les sciences religieuses, mais une forte focalisation sur ce qui concerne la langue arabe, et puis d'autres sciences, d'autres disciplines, comme la géographie, comme l'histoire, qui n'étaient pas dispensées dans d'autres lieux. Et quand il va à Dar el-Uloum, d'où part-il ? Il part de la campagne égyptienne pour se retrouver où ? Au Caire. Premier choc. Le premier choc, qu'est-ce que c'est ? C'est de voir au Caire très très peu de pratique, une très très mauvaise connaissance de l'islam. Ça restera dans sa mémoire avec effectivement un premier choc qui va le faire immédiatement se diriger vers les savants qui l'interpellent. Il rapporte d'ailleurs dans ses mémoires une interpellation qu'il fait à un cheikh qui s'appelait Dijawi et qui lui parle. Il lui dit, mais faites quelque chose, si au moins vous ne le faites pas par rapport à votre profession, faites-le pour les musulmans, faites-le pour préparer votre avenir dans l'au-delà. Et la première réflexion qu'il fait à l'endroit des ulama va se traduire par quelque chose qui est resté célèbre chez Hassan el-Banna. Tout à coup, la prise de conscience que tout le travail qui se fait dans les mosquées n'est pas suffisant. Les mosquées sont pleines, les gens continuent à aller, les divisions n'ont pas cessé, et pourtant le réveil et pourtant la sensation d'être musulman n'est pas répandue dans la population. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide, alors qu'il était en train d'essayer de former des prédicateurs, de descendre dans la rue et de commencer des prédications devant les cafés. Cette attitude-là, qui sera peu comprise d'abord par ceux qu'il essayait de former, eh bien, va être de ce point de vue-là quelque chose qui va être intéressant parce que immédiatement quelque chose se passe. Il réveille des cœurs et il donne trois conditions, trois critères à ses interventions dans les cafés. Parce que c'est pas tout d'aller dans les cafés. Il y a en même temps la réflexion de ce que c'est que de parler devant un café, là où des gens, en général, n'attendent pas ce type de discours. Et il se donne trois conditions. D'abord, une chose très importante. Il ne l'oubliera jamais, mais elle fait partie de lui en fait. En fait, c'est aussi le secret de Hassan el-Banna, une des conditions, ne jamais blesser les sensibilités. En d'autres termes, ne pas parler pour culpabiliser, parler pour réveiller. C'est la première dimension. La deuxième des choses qu'il met en évidence, c'est de présenter les choses de façon abordable, c'est-à-dire de parler à la mesure, bien entendu, comme l'a dit le prophète, c'est-à-dire parler aux gens à la mesure de leur esprit, et là, quand ils se trouvent dans cette situation-là, effectivement, de leur parler à la mesure de leur esprit. Et puis, une autre chose qui est intéressante, un propos court, c'est-à-dire qu'il ne dépassait pas, dit-il, les 10 à 15 minutes d'intervention devant les cafés. L'autre chose également qui va beaucoup le perturber, c'est la situation générale du pays, et il suit les cours des savants, il va à gauche et à droite, se renseigne, donc quelque chose qui sera la marque de sa vie, tout à la fois à la recherche de la science, mais tout à la fois extrêmement mobile, extrêmement curieux de ce qui se passe dans son pays, triste de la situation, mais conscient de ses responsabilités. Et lorsqu'en 1927, il se prépare à quitter Dar el-Uloum, le professeur lui pose aux étudiants, donne aux étudiants un sujet de dissertation. Ce sujet de dissertation, c'est finalement quelle est l'espérance que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire plus tard et quels sont les moyens que vous vous donnez pour y parvenir. Et sans faire, c'est une très très belle dissertation, elle est très connue, la dissertation de 1927, et pour résumer, il dit deux choses, mais deux choses qui sont importantes, qui montrent également le bien de les priorités de Hassan el-Banna. Un, rendre heureux et rendre permettre à ma famille d'être heureuse, c'est-à-dire de rendre heureux ma famille, avec une dimension, il rappelle un ami, sans le nommer, un ami qu'il a, et il dit, préserver ce lien de fraternité avec cet ami. Et puis, la deuxième des choses qu'il espère être et devenir, c'est être un guide éducateur. Un guide éducateur. Et dans guide éducateur, il y a tout à la fois l'orientation et la formation. Ce qu'il sera, effectivement, et à la fin de la dissertation, il en rend témoin son professeur devant Dieu. C'est cela qu'il veut faire, et c'est bi'iznillah wa bi'aounillah, ce qu'il va effectivement faire. Troisième partie de sa vie, 1927-1932. 1927, après avoir terminé Dar el-Uloum, Hassan el-Banna va être va devenir instituteur à Ismaïliya. À l'Ismaïliya, il est chargé d'être instituteur là-bas, donc on l'envoie dans cette ville. Et Hassan el-Banna arrive dans cette ville et il parle dans ses muzakkirat de Wahy l'Ismaïliya, c'est-à-dire la révélation de l'Ismaïliya. Résumons encore une fois, c'est dommage, mais on est obligé de le faire. Résumons pour dire que cette révélation, elle est de deux types. Là également, tous ces éléments-là vont se condenser dans son esprit et dans son cœur pour devenir les moteurs, les catalyseurs par la suite d'une action pensée, orientée en fonction de ce qu'il a vu. Hassan el-Banna est un homme du peuple qui réfléchit par ses références islamiques, mais toujours en fonction du peuple qu'il côtoie. Et quand il arrive à l'Ismaïliya, il voit deux choses. La première des choses, c'est une forte concentration de colons anglais. C'est-à-dire, l'agence mondiale du canal de Suez est là, et il voit cette présence anglaise qui est arrivée à un tel point de colonisation que même les rues ne sont plus écrites ou indiquées en langue arabe, mais parfois en unique langue anglaise. Et Hassan el-Banna fera justement l'analyse de cette espèce de colonisation financière, politique et culturelle. À tel point que Richard Mitchell, qui a écrit un livre sur les frères musulmans, dira « Sans doute est-il celui qui le premier a parlé d'invasion culturelle. » En d'autres termes, de colonisation de l'esprit plus dangereuse que la colonisation politique. Nous y reviendrons dans la dernière partie de cette intervention, dans la dernière partie de cette conférence. Donc, cette révélation de deux types, Hassan el-Banna arrive dans cette situation et immédiatement fait le même constat. Les mosquées sont pleines, la solution n'est pas trouvée. Il recommence, retourne à nouveau dans les cafés et exprime, parle, rappelle, toujours avec cette même conditionnalité, cette condition, à la mesure de l'esprit des auditeurs, dans un propos très simple, sans les culpabiliser, pour les réveiller dans un propos extrêmement concis, extrêmement court. Et il va attirer beaucoup de monde, à tel point que des personnes qui voient ce jeune instituteur leur parler décident à ce moment-là de l'interpeller pour pouvoir suivre des cours avec lui. Et il va, de ce point de vue-là, commencer des cours hebdomadairement dans une petite zaouïa qui sera dans la région. Donc il commence comme ceci un cours plus spécifique avec un certain nombre de personnes, toujours en continuant cette da'wa amma, c'est-à-dire cet appel hors des mosquées. Et puis, là également, regardez l'esprit de celui qui vient pour réformer, non pas seulement celui qui vient pour constater l'ampleur des dégâts. Ce qu'il a fait au Caire, il vient à Ismaïlia et il se dit, quelles sont les personnes qui, dans ce lieu donné, sont les personnes influentes? C'est-à-dire qu'il pense son projet de réforme en fonction d'un état des lieux qu'il établit. Et dans ses mémoires, il rappelle que quand il est arrivé à l'Ismaïlia, il va faire une étude et se dire quels sont les groupes, quelles sont les personnes qui sont influentes, au sens qui font cette société et qu'il faut toucher pour pouvoir la réformer. Il en cite quatre. Les premiers, ce sont les savants et les ulama qui sont présents et qui font les mentalités. Les deuxièmes, ce sont les chouyour et toruk, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de groupements soufis. Les notables, c'est-à-dire les riches, qui sont entre guillemets des aristocrates. Et puis les clubs d'intellectuels qui sont les nadis, où les intellectuels discutent. Et immédiatement, voyant les quatre zones d'influence, décide qu'il doit toucher les quatre. Et établit des relations avec les ulama, établit des relations avec les chouyour de Torok, établit des relations avec les notables, va dans les clubs d'intellectuels et discute, se fait une opinion, se fait connaître et transmet une opinion. Donc immédiatement, on perçoit une perception de l'engagement extrêmement efficace par rapport à cette dimension de travail. En 1928, c'est à ce moment-là effectivement que 6 personnes viennent voir Hassan el-Banna et viennent lui proposer justement de faire un pacte d'allégeance avec lui. Je n'ai pas le temps, et dans une conférence précédente, Hani avait effectivement parlé de cela, la construction de ce moment de l'Ikhwan el-Muslimoun. Et donc, 6 personnes viennent le voir et lui disent « Nous sommes décidé, déterminé à faire quelque chose, et sans autre formalité, ils s'appelleront Al-Ikhwan al-Muslimoun. » La chose qu'il faut remarquer, c'est que les 6 personnes qui viennent le voir sont d'origine modeste, qui repassent les vêtements, qui réparent les bicyclettes, qui a un petit artisanat, donc des personnes extrêmement modestes, et c'est avec ces 6 personnes que commence cette idée fondamentale. Et immédiatement, ce qui va se passer, c'est qu'avec ces 6 personnes, ils font 2 choses. La première, c'est une mosquée, et puis également une école avec le groupe qui était déjà présent, Madrasat al-Tahdhib, c'est-à-dire l'école de l'éducation et de la formation, puis ensuite Ma'had Hira, c'est-à-dire sur la base de la caverne Hira et l'Islamiyya, qu'il va également constituer une espèce d'institut. Et là également, dans cet institut, une chose de particulièrement intéressante, là également, qui sera vraiment dans la cohérence de sa pensée. Il essaye d'établir les meilleurs moyens pédagogiques. Il y a des cours de géographie, il y a des cours d'histoire, elles se font en plein air. Il a l'habitude de faire sortir les élèves, il discute avec eux, il fait en sorte que la relation professeur-élève soit extrêmement intense. On fait de l'arithmétique avec les éléments naturels, c'est-à-dire qu'il utilise les meilleurs moyens pédagogiques pour essayer de les appliquer dans sa pédagogie. Et il ne s'arrête pas dans cette école à l'enseignement religieux, il fait également tout le programme primaire et il y ajoute un enseignement technique. Regardez, un enseignement technique, c'est-à-dire tu apprends dans un savoir aussi qui va devenir utile. Jamais, et dans aucune des écoles que les frères musulmans par la suite penseront, la dimension pratique, concrète, pragmatique ne sera négligé. En aucune circonstance du travail, ce n'est pas une pensée et un projet qui se forcent au-delà des nuages, c'est quelque chose d'extrêmement concret qui se réalise dès les premiers moments. Donc ceci en 1928-29, on a ces réalisations. Et puis, entre 29 et 30, on relève 4 sections des frères musulmans. Donc, elles vont essaimer de cette façon-là. Simplement quelques chiffres, je ne vais pas insister. 29-30, 4 sections. 1931, 10 sections. 1932, 15 sections. Et puis, en 1923, pour sauter un tout petit peu, mais sachez qu'en 1923, il fait la première école pour femmes, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'éducation des femmes, Madrasat al-Ummahat al-Mu'minin, qui également, et c'est intéressant, regardez, c'est toujours pareil, toujours ce même souci de la science, mais en même temps de la dimension pratique. C'est une école qui va de la même façon enseigner les éléments religieux, c'est une école qui va enseigner les sciences humaines et en même temps l'économie familiale, c'est-à-dire la dimension pratique aussi dans cette dimension-là. Donc, on peut dire que déjà, à partir du premier moment de l'établissement des frères, deux choses apparaissent importantes, deux orientations. La première, c'est le souci d'éduquer et le souci du peuple, toujours et en permanence. Et puis, une chose, une détermination sur laquelle jamais Hassan el-Banna ne transigera, c'est le refus de la présence étrangère. La révélation de l'Ismaïlia va, la révélation donc entre guillemets, va être et va accompagner Hassan el-Banna tout au long de sa vie. Quatrième moment et avant-dernier moment, c'est la période de 1932 à 1939. Hassan el-Banna, après avoir travaillé pendant ces années à l'Ismaïlia, est transféré au Caire et en même temps, le Markaz el-Am, c'est-à-dire le bureau central des frères musulmans, va se déplacer au Caire. Et puis, ici et à ce moment-là, il développe une idée d'un projet de société, ce que Ibrahim el-Bayouni Ghanem, qui a écrit El Fiqh al-Siyasi al-Imam al-Shahid Hassan el-Banna, la pensée politique de l'imam Hassan el-Banna, eh bien, parle d'un mouvement social global. N'oubliez jamais ce terme-là, parce que cette priorité de la dimension de réforme sociale pour comprendre et l'économique et le politique comme des instruments sont des piliers de la pensée de Hassan el-Banna. C'est-à-dire que jamais il ne fait du politique une finalité. Sa finalité, c'est une société qui a l'instrument du politique, l'instrument de l'économique, l'instrument du législatif. Tout ça, ce sont des instruments pour faire une société qui est fondamentalement fidèle à ses références musulmanes. Nous y reviendrons. Eh bien, simplement, dans ce projet de longue haleine, comme je vous l'ai dit, il était décidé que je lui donnerais beaucoup la parole, et on a un premier extrait par rapport à cette compréhension-là, que je vous lis, qui est tiré des Muzakkirat. Hassan el-Banna dit « Il faut que le fondement de la Renaissance soit l'éducation. Ainsi donc, la nation s'éduque d'abord et comprend parfaitement ses droits. Elle prend connaissance par ailleurs des moyens par lesquels elle parvient à atteindre ses droits. Elle est éduquée dans la foi, en ses moyens, et cette foi s'enracinant son être avec force. Ou, peut-on dire en d'autres termes, il faut qu'elle apprenne les modalités de sa Renaissance sur le plan de la pensée, de l'action et de la spiritualité. Tout cela nécessite un temps particulièrement long, car c'est un programme d'éducation destiné à une nation. Il est donc nécessaire que la dite nation s'arme de patience, de douceur et s'apprête à une lutte de longue haleine. Toute nation qui tente d'enfreindre en cela les règles de la nature ne peut récolter que l'échec. » C'est clair, il faut du temps, et il va trouver sur sa route, même à l'intérieur des frères, des personnes pressées, et il leur dira, pour qui est pressé, ce n'est pas votre association, vous n'êtes pas dans la dynamique qui est la nôtre, et leur donnera la possibilité d'agir de leur côté dans le rythme qui leur sied le mieux, mais ce ne sera pas le sien. Depuis le départ, il a l'idée d'un projet extrêmement long. À partir de 1933, des congrès vont avoir lieu à période régulière, en particulier chaque année, des congrès qui réunissent l'ensemble des délégations de sections au Caire, avec en particulier, nous y reviendrons, un congrès très important en 1939, à la moitié du travail. En 1936, à partir des événements qui sont en train de se passer en Palestine, et en particulier la mobilisation de la population palestinienne, parce qu'il devient apparent que les sionistes sont en train d'acheter des terres, Hassan el-Banna va commencer une mobilisation de grande haleine. C'est son engagement fondamental à partir de 1936. Les années décisives dans la vie de Hassan el-Banna sont 1936-1939. En 1936, il y a une forte mobilisation pour des questions d'ordre politique, et là on aura également de ce point de vue-là à y revenir, mais c'est le moment bien avant 1945, 1946, 1947 avec l'établissement d'abord la décision des Nations Unies par rapport à la partition de la Palestine, puis ensuite le 14 mai 1948 la création de cet État. Bien avant, Hassan el-Banna s'est engagé avec El-Hajj Amin el-Husseini, celui qui était donc le grand mufti. Il y avait déjà à cette époque une collaboration. Année décisive donc en 1936, pourquoi ? Parce que l'engagement est en train d'être beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis, beaucoup plus orienté. Et ce sont des années décisives parce qu'apparaît le premier journal, El-Fatah al-Islami, dans lequel Hassan el-Banna va écrire un certain nombre de textes. Le premier journal des frères Jalid Adil Ikhwan al-Muslimoun, et en même temps il commence quelque chose qui va avoir un impact extrêmement important au Caire, c'est Ahadith et Thulasa, c'est-à-dire les cours du mardi qui au centre du Caire réunissent des centaines puis des milliers de personnes venant écouter Hassan el-Banna. Si ce n'est pas lui, parfois il donne cette responsabilité à l'un ou l'autre de ses collaborateurs, mais en général c'est lui qui tient la parole à ce moment-là. Et puis le début également à partir de 1936 de ce qui est connu, ce sont les rasa'il, qu'on peut traduire par épître ou par lettre, qui sont des petits textes courts que Hassan el-Banna destine à ceux qui sont avec lui dans le mouvement. Et il commence, bien entendu, par une risala très célèbre qui est à partir de ce moment-là connue, Da'watuna, qui marque les grandes lignes effectivement de son engagement, et puis il y en a toute une série, je ne vais pas les citer, et également une qui sera très très importante parce qu'elle est directement destinée au roi Farouk et à l'ensemble de ses administrateurs, Nahwan Nour, c'est-à-dire vers la lumière, un texte extrêmement important avec à l'intérieur El Mantal Ibn Khamsoun, c'est-à-dire les 50 demandes très précise de Hassan el-Banna et du mouvement à l'endroit des gouvernants. Je ne vais pas insister sur l'ensemble du mouvement de Hassan el-Banna, mais Ibrahim el-Bayoumi Ghanem rappelle dans son analyse que Hassan el-Banna, en l'espace de 20 ans, a fait 17 000 conférences recensées, 30 000 rencontres d'organisations sur le plan local et a écrit plus de 2 000 articles. 17 000 conférences en 20 ans. Vous voyez un tout petit peu ce que ça veut dire en matière de déplacement, surtout à une époque où les trains, c'est pas le TGV, c'est pas... Oui, c'est une situation de l'Égypte des années 30 et des années 40. Bien, première époque aussi où vous êtes dans une situation, là il faut le dire, 1923-1945, l'Égypte est en train de vivre des crises. Et il s'est arrêté là. Il est en train de vivre des crises ministérielles extrêmement nombreuses. Et de ce point de vue-là, on a effectivement, à cette époque, des changements de ministres extrêmement fréquents. Et puis surtout une chose, le jeu des Anglais, par l'intermédiaire du pouvoir, de créer des partis, ceux qu'on appelle Ahzab el-Qasr, c'est-à-dire les partis du palais. Et Hassan el-Banna, de ce point de vue-là, s'exprime par rapport à cela. Et il s'exprime contre le multipartisme en s'attaquant à ce type de multipartisme. Et là, il faut être clair, parce que si on reprend les textes et qu'on ne comprend pas à quel moment Hassan el-Banna et contre quoi il a écrit ces textes contre la multiplicité des partis, on pourrait penser, comme certains l'ont fait, volontairement ou involontairement, sciemment et de façon parfois avec mauvaise foi, de dire il était contre la pluralité, il ne voulait qu'un seul parti. Hassan el-Banna était contre cette idée des partis avec lesquels les Anglais jouaient, dont on savait qu'ils étaient le produit destiné à diviser les Égyptiens pour faire régner un pouvoir colonial. Donc il faut situer ceci à cette époque-là de façon particulière. Et c'est à partir de cette époque-là, effectivement, que le soutien, même avec justement dans d'autres mouvements en Égypte, et en particulier les chrétiens, le vaste mouvement de solidarité avec la Palestine est en train de se réaliser. 1939, période extrêmement importante, c'est le 5e congrès des frères musulmans. Hassan el-Banna fait un bilan de l'activité en traçant toutes les grandes lignes, fait un condensé de ce qui s'est passé, et il dessine pour la première fois de façon claire trois étapes du travail islamique. Et il parle de « et ta'arif, et taqwin, ou et tanfiz ». Et ta'arif, c'est la connaissance générale de ce projet qu'il a, à savoir la réforme sociale, la réforme sur la base des références islamiques. Et il dit, après 10 ans, nous sommes tout juste en train de terminer cette première étape. Il faut que nous passions à la deuxième étape, sans que ça veut dire qu'on ait fini la première, à savoir « et taqwin », c'est-à-dire la formation profonde. Et puis ensuite, alors ce sera bien plus loin que « et tanfiz », même si on a déjà commencé, mais dans sa réalisation globale, parviendra. Cinquième et dernière étape de ce point de vue-là, 1939-1949. Et là, les sections se sont multipliées. Il faut savoir qu'en 1948, on en compte à peu près 2000 sections. Vous verrez que chaque section a avec elle tout un travail spécifique dont nous dirons quelque chose. Donc, ces sections, elles ont un mot d'ordre. Un, elles doivent s'affilier, organiser, créer une école. Elles doivent également avoir une section qui s'occupe du sport et des randonnées et des sorties, c'est-à-dire une très très grande aussi importance est mise sur l'aspect sportif, et essayer de développer localement une entreprise ou un travail d'artisanat qui soit productif sur le plan économique. C'est-à-dire qu'une section, ce n'est pas une section qui est en train d'essayer de percevoir un travail islamique, c'est vraiment fondamentalement un ancrage local, école, entreprise, dispensaire même, puisqu'il va y en avoir un certain nombre. Il y a tout un travail qui s'ancre dans le local pour transformer une société globalement. Mais clairement, imaginez maintenant, dans l'espace de l'Égypte, 2000 sections, ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas une section qui va s'occuper de 14 villes, c'est une section qui va s'occuper pratiquement de son quartier, de son village, de son lieu. Ça veut dire, puisque l'on compte combien, à peu près 4000 villages en Égypte, et que Hassan el-Banna en a visité 3000. Il a visité 3000 villages, l'Égypte en comptait 4000, et dans cette perspective, il y a 2000 sections. Vous voyez bien que c'est un travail qui a une emprise, un fort ancrage sur le plan local. Et à partir de 1939, également, Hassan el-Banna élabore ce qu'on appelle le manhaj al-thaqafi, c'est-à-dire ce qui est la référence, la méthode, la méthodologie sur le plan culturel. Et regardez, encore une fois, toujours cette constante, une dimension religieuse, une dimension politique, une dimension culturelle pour la formation des adhérents du mouvement. Et puis, il commence, à partir de cette date, il recommence la publication d'El Manar. El Manar, c'est le tafsir qui avait commencé Rachid Reda, en collaboration d'abord, puis tout seul, de Mohamed Abdou. Et puis lui, il le continue, il ne le continuera que 2 ans, parce que le gouvernement cessera, qu'on commencera la répression. Et quels sont les modes d'éducation à ce moment-là? C'est ce qui s'appelle El Kata'ib, grand cercle de réflexion et de formation qui sont, dit Hassan el-Banna, les lieux de formation spirituelle. C'est des grands cercles qui ont lieu et qui sont des réunions qui ont lieu à ce moment-là dans les mosquées. Les choses changeront quand commencera la répression. 1941, c'est la première arrestation de Hassan el-Banna. Pourquoi? Parce qu'il fait une intervention à Damanhour où il critique la politique du gouvernement par rapport à la présence des Anglais, et surtout la constante de Hassan el-Banna également. Il ne l'oubliera jamais, la politique anglaise en Palestine. Immédiatement, ceci va provoquer son arrestation d'un mois, puis ensuite il sera exilé, pour ainsi dire, à Kina, dans le sud de l'Égypte, mais il y restera un mois parce qu'on y perçoit des troubles, parce que son activité continue, et on le fera revenir par la suite, et il reviendra donc un mois plus tard. Tout ceci se passe donc en 1941. Quand il perçoit cette mobilisation gouvernementale, Hassan el-Banna développe quelque chose qui est connu sous le nom de Nizam el-Khas, c'est-à-dire l'organisation spéciale, dont on a dit qu'elle était liée au terrorisme. Hassan el-Banna a toujours dit une chose, nous y reviendrons, refus total de la violence, mais il a averti les Anglais. sortez avant que vous nous mettiez dans l'impossibilité de faire autre chose que devoir lutter contre vous. Et donc, dans sa perspective, avec ce début de répression, apparaissent les premiers signes qu'il va peut-être y avoir à un moment une confrontation. Il l'a refusé avec le pouvoir égyptien, mais il était prêt, si le gouvernement anglais ou si le pouvoir anglais restait sur ses terres, à aller jusqu'au bout en dernier recours. On y reviendra également. En 1941, il s'engage également dans les élections. C'est la première fois qu'il s'y engage. Les Anglais interviennent en disant au Premier ministre de l'époque, s'il se présente aux élections, on vous destituera. Il en parle à Hassan el-Banna. Hassan el-Banna dit qu'il ne veut pas entrer en conflit et qu'il ne veut pas laisser les Anglais mettre en conflit les Égyptiens. Il se retire pour la première fois en 1941 de ces élections. En 1941, il commence également une chose qui va prendre une ampleur particulière, ce sont les scouts. Il va y avoir en 1941 3000 scouts, en 1942 15000, en 1948 80000 scouts. C'est ça la réalité d'un travail qui part de la base, qui s'occupe des jeunes. Et les scouts, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui sont formés à faire du sport, qui nettoient les rues des villes, qui sont préoccupés par le soutien social aux personnes de leur village et aux personnes des villes. Dès que la situation s'embrase et que la répression devient de plus en plus importante à partir de 1942, Hassan el-Banna pense une nouvelle méthode de formation. Les kataeb sont trop visibles. Elles sont ouvertes, c'est une formation qui était possible, et il pense tout immédiatement, en fonction d'une situation de répression, à un nouveau système, un système où 5, 7, 8 personnes maximum sont autour d'un arqib, c'est-à-dire d'une personne qui va les former et qui va s'appeler el-Osor, el-Osra, la famille, les familles, qui sont une nouvelle organisation. Pensez en fonction d'une répression, pensez en fonction d'une capacité, exactement comme le prophète l'a fait à Dar el-Arqam, c'est-à-dire penser une formation en fonction d'un contexte de répression. Et en 1945, la nouvelle loi apparaît qui interdit un fonctionnement spécifique des jamriyat. Hassan el-Banna adapte la relation de son travail social par rapport à l'Hay'a, qui va devenir l'Hay'a, les frères musulmans vont devenir une organisation, et développe ce qui s'appelle les bureaux d'aide sociale, et qui vont être au nombre de 500 sur tout le territoire égyptien, qui sont des bureaux de soutien à la population sur le plan social. Et à partir de 1942, la répression ne va pas cesser, elle va augmenter. Et c'est à ce moment-là que Hassan el-Banna écrit une risala, c'est-à-dire un épître célèbre, « Bayn al-Ams wal-Yom », c'est-à-dire « Entre hier et aujourd'hui », où il prévient que peut-être, par la suite, il n'aura pas l'occasion de parler à ceux qui sont avec lui et qu'il parle justement d'une répression à venir. Alors rapidement, parce que ça a pris pas mal de temps, cette présentation de la vie, mais j'essaye d'y mettre un certain nombre d'éléments pour que vous voyez un tout petit peu comment les choses se passent. 1944, Hassan el-Banna se présente pour la deuxième fois aux élections à l'Ismaïliya. À l'Ismaïliya, il se présente aux élections et il gagne le premier tour. Il gagne le premier tour et que se passe-t-il? Eh bien, changement de stratégie et tout à coup, ce sont des cars qui vont chercher les populations pour les emmener voter. Et qui est derrière l'organisation de ces cars? Le gouvernement et en particulier les Anglais qui aident et vont chercher à l'extérieur des personnes qui viennent voter pour faire perdre Hassan el-Banna. Ça devrait nous dire quelque chose en matière de gestion d'élections. Et donc en l'occurrence, ici, on a effectivement Hassan el-Banna qui est retourné là-bas pour se présenter au niveau législatif. Et il explique pourquoi il le fait. Je n'ai pas le temps, ici je voulais vous le lire, mais voyons le temps. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment Hassan el-Banna, de ce point de vue-là, lui-même explique pourquoi il se présente à des élections dans cette situation-là. Simplement, quelques lignes pour que vous ayez une idée. Il interpelle dans un article qui s'appelle pourquoi est-ce que les frères musulmans participent aux élections? Et il dit la chose suivante, d'autres enfin questionnent avec pertinence. Que ferez-vous quant au serment d'allégeance à la Constitution? Si vous êtes élu, en prêtant le serment, vous stipulez que vous respectez la Constitution. Or, vous autres, les frères, vous ne cessez d'affirmer, le Coran Coran est notre constitution. La réponse à cette question est claire et évidente. La constitution égyptienne, dans la globalité de son esprit et la généralité de ses objectifs, en ce qui concerne par exemple la concertation et Shura, la reconnaissance du fait que l'autorité est au peuple ou la protection des libertés, ne contredit pas le Coran. Elle ne s'oppose pas à ses règles et à ses enseignements. À quoi il faut ajouter que cette constitution reconnaît que la religion officielle de l'État est l'islam. S'il existe bien des articles qui nécessitent des modifications ou des améliorations, eh bien la constitution reconnaît elle-même que les députés ont le droit d'y apporter des modifications ou des améliorations dans le respect de la loi prescrite. Or, c'est bien la députation au Parlement qui permet aux frères la réalisation de cet objectif. Comprenant la Constitution, bien entendu comme la référence, en disant il faut bien y participer de l'intérieur pour pouvoir élaborer, de ce point de vue-là, le projet de réforme auquel il appelait. Et puis, à partir de 1944, donc, puis ensuite de 1946, des manifestations menées par les frères contre l'occupation et la présence anglaise, toujours, contre l'occupation en Palestine et surtout l'achat de terrain auquel s'est opposé très très vite Hassan el-Banna. Et puis, vous savez, le 29 novembre 1947, c'est la partition de la Palestine décidée par l'ONU et alors grande manifestation des frères musulmans en Égypte et surtout envoi de milices de frères qui vont aller aider les Palestiniens à résister. Alors, dans un premier moment, avec le soutien du gouvernement, puis plus. Pourquoi le gouvernement cesse? Eh bien, on en a immédiatement les réponses. Le 6 décembre 1948, les Anglais, les Français et les Américains se réunissent à l'ambassade de France au Caire et décident et demandent l'interdiction de l'organisation des frères musulmans. Le 6 décembre. Et le 8 décembre, l'organisation est interdite. Est interdite officiellement, elle n'a jamais été reconnue officiellement depuis, mais à partir du 8 décembre 1948, l'organisation des frères musulmans est considérée comme hors la loi. Et on a posé la question à Hassan el-Banna. Pourquoi a-t-on interdit, justement, en tant qu'organisation? Et Hassan el-Banna présente trois hypothèses. La première, la pression étrangère. La seconde, c'est sans doute ou peut-être à cause de l'arrivée des élections législatives qui devaient avoir lieu en octobre, donc c'était pour stopper l'avancée dont on savait que les frères musulmans avaient une popularité telle qu'ils pouvaient remporter les élections législatives ou en tout cas avoir des sièges. Et puis une troisième hypothèse, et c'est une bonne hypothèse, c'est celle sans doute que les gouvernements arabes ont envie de se retirer du combat en Palestine. En d'autres termes, vont démissionner de leur résistance en Palestine. Avec l'interdiction de l'organisation des frères, avec cette forte pression et tension qui a lieu en 1948, en particulier en décembre, il y a l'assassinat, le 28 décembre 1948, de Nukrashi, le Premier ministre. Un assassinat dont on a d'abord dit qu'il était commandité par Hassan el-Banna et dont on sait aujourd'hui que jamais Hassan el-Banna n'a commandité d'attentat politique et celui-ci en particulier, il ne l'a pas commandité à plus forte raison. Et dans cette perspective-là, après la mort de Nukrashi Pasha, Ibrahim Abdelhadi, qui vient tout de suite après lui, augmente la répression. Et le 12 février, Hassan el-Banna, le 12 février 1989, un jeune appelle Hassan el-Banna et lui donne rendez-vous au centre de Ishouban al-Muslimin en lui disant qu'il a un message à lui transmettre de la part du gouvernement. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est un piège. Hassan el-Banna s'y rend et en fait, personne ne vient du gouvernement. Au moment de ressortir avec Abdelkrim el-Mansour qui était avec lui, ils sortent du lieu et deux personnes se présentent et tirent dessus. Hassan el-Banna est moins touché que le frère qui l'accompagne, et dans cette perspective, il sera accompagné à l'hôpital. Il aura même le temps de prendre le numéro de plaque de la voiture, dont on saura par la suite que c'est une voiture du gouvernement. Et Hassan el-Banna se retrouve à l'hôpital, il est atteint sous l'aisselle, et un émissaire du gouvernement se rend à l'hôpital en demandant à ce que le médecin ne soigne pas Hassan el-Banna, et il meurt dans la nuit d'une hémorragie. En tout cas, il meurt sur place et il paraît assez clair que c'est après coup qu'il aurait, s'il avait été soigné, wa qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Donc, dans cette perspective, en 1948, quand Hassan el-Banna meurt, il y a plus d'1 million d'adhérents en Égypte, et ça, ce sont C'est en Égypte seulement, et peut-être y avait-il encore davantage de sympathisants, sans compter les sections qui ont lieu, qui se sont créées au Liban, en Libye, en Syrie, en Palestine et au Soudan. Et puis, c'était le 12 février. Le 24 février, quelque chose semble donner raison à la troisième interprétation de Hassan el-Banna. L'armistice est signé et l'Égypte et l'armée égyptienne se retire du conflit palestinien exactement 12 jours après la mort de Hassan el-Banna. Donc, signature de ce qui est finalement l'acceptation de la défaite et de la création de l'État d'Israël. Ce fut long, ce fut un peu dense. Je rentre maintenant dans la deuxième partie de l'exposé pour mettre en évidence comment Hassan el-Banna effectivement présente la compréhension générale de Hassan el-Banna, la compréhension qu'il a de l'islam et comment est-ce qu'effectivement il a perçu ces choses-là. La première des choses qu'il faut mettre en évidence et que lui-même va dire très très rapidement, c'est que on a dit que le mouvement islamique, le mouvement musulman, est un mouvement qui est né de la réaction. Et c'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant. Ce pourquoi les gens reviennent à l'islam, c'est effectivement parce qu'ils sont dans une situation pauvre. C'est une réaction à un état de fait. Et Hassan el-Banna a non seulement répondu à cela déjà dans les années 30 et 40, mais immédiatement dans sa compréhension de l'islam, quelque chose qui va à l'encontre de cela, en mettant en évidence que c'est l'islam lui-même, de par la bonne compréhension qu'on peut en avoir, qui nous appelle à nous réveiller et surtout à refuser tout type de désespoir. À partir de ce moment-là et dans cette partie, je vais lui donner beaucoup la parole par les textes qu'il a pu écrire. Et ce qu'il met en évidence, justement, c'est cette notion de désespoir, cette notion qui est... Enfin, nous, pour nous qui vivons en Europe, ça devrait un tout petit peu nous faire réfléchir. Cette espèce de sentiment de malaise qu'on peut avoir de musulmans en regardant la situation, voire même de tendance à une espèce de malaise ou de désespoir qui peut habiter les gens. Et bien, Hassan el-Banna met en évidence la première des choses qui lui paraît fondamentale. Pour qui sait et comprend et croit et a la conviction que le message de l'islam est le dernier message révélé par Dieu aux hommes, il doit comprendre que dans ce message et dans la compréhension de ce message, ce qui doit naître de sa compréhension, c'est de la vigueur et de la force, jamais du désespoir. C'est un message qui réveille, c'est un message qui responsabilise, c'est un message qui appelle à une compréhension de la responsabilité humaine parce que les hommes vont être témoins, parce que les musulmans vont être témoins devant tous les hommes. Et il parle de ceci à plusieurs reprises. Je vous cite trois petits passages particulièrement intéressants. Il dit ceci: « J'aimerais que tu saches, cher frère, que nous ne sommes pas désespérés de nous-mêmes. Bien au contraire, nous sommes portés par beaucoup d'espoir et nous pensons que la seule chose qui peut empêcher notre réussite est bien ce désespoir. Si la force de l'espoir est en nous, alors nous parviendrons à de grandes réalisations, s'il plaît à Dieu. De fait, nous ne sommes pas désespérés et le désespoir n'a pas frappé à la porte de notre cœur. Dieu soit loué. » Deuxième citation, interpellant les frères toujours, ne désespérez pas, car le désespoir ne fait pas partie des sentiments des musulmans. Les réalités d'aujourd'hui sont les rêves d'hier, et les rêves d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Troisième citation également, regardez la force également de ce retour avec le cœur. J'ai beaucoup questionné et beaucoup essayé. Je me suis mêlé à de nombreux cercles et j'ai été le témoin d'un grand nombre d'événements et je suis finalement sorti de ce périple, court en sa distance, mais long en ses étapes, avec une conviction que rien n'ébranle. Le bonheur que cherchent les hommes ne provient pas de leur être. Le bonheur que cherchent les hommes ne provient que de leur être intime, que de leur cœur, et il ne peut naître ailleurs qu'en ce cœur. La peine dans laquelle se trouvent les hommes et dont ils essayent de fuir ne les atteint que par cette intimité et par ce cœur. Le Coran le confirme et ses paroles de Dieu le Très-Haut en éclaircissent le sens. Certes, Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant que ses membres ne changent ce qui est en eux-mêmes, dans leur être intime. J'ai considéré cela et j'ai considéré dans le même temps qu'il n'existe pas d'institution ou d'enseignement qui offre le bonheur aux cœurs humains et qui les guide vers les chemins concrets et clairement dessinés de ce bonheur, si ce n'est l'islam et la foi naturelle, claire et pratique. Donc une dimension de vigueur. Revenir à l'islam, c'est cette dimension de foi dans le cœur. Et le centre de toute sa réflexion, c'est finalement celle-ci. Donner force au cœur pour pouvoir avoir un esprit qui soit clair dans son orientation. Premier passage donc qui est véritablement d'importance. L'autre chose également, pour lui, à partir de cette compréhension qu'il faut, finalement, et pour nous c'est vraiment des paroles qui sont là, maintenant, qu'on devrait entendre. Pas de désespoir, pas de paresse. Comprendre que le cœur et revenir au cœur, c'est la vigueur. Et que comprendre que cette vigueur est effectivement la clé, le cœur est la clé, la vigueur est la clé de tout le travail islamique. La deuxième des choses qu'il met en évidence à partir de cela, c'est de revenir aux enseignements de l'islam. Pour revenir au cœur, revenir à l'islam. Et revenir à l'islam pour lui, c'est non pas, encore une fois, par réaction, mais par essence. Et il dit des passages qui sont extrêmement beaux en langue arabe. J'en cite quelques passages, je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans cette explication. Quelle lumière issue des soleils de la Rabbaniya, le prophète bien-aimé a-t-il donc attisé dans le cœur de ses compagnons pour qu'elle donne le jour et offre la lumière après tant d'ombre et de ténèbres? Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a placé trois sentiments dans le cœur de ses compagnons qui s'en sont imprégnés, par lesquels ils ont rayonné. Il interpelle les gens qui sont autour de lui et il rappelle ces trois sentiments en disant « C'est cela notre chemin, c'est cela revenir à l'islam ». Premier élément, il imprima dans leur cœur que ce avec quoi il était venu est la vérité, que le reste est erreur, que son message est le meilleur des messages, son programme le meilleur des programmes, et sa législation, l'organisation la plus complète, par laquelle se réalise le bonheur de tous les hommes. Il leur récita du livre de Dieu ce qui, abondant en ce sens, affermissait l'être et liait le cœur. Tiens-toi à ce qui t'est révélé, car tu es sur la voie droite, cela est certain rappel pour toi et pour ton peuple, vous serez bientôt interrogés. Il imprima encore dans leur cœur le sentiment qu'étant les partisans de la vérité et les porteurs du message de lumière, alors que d'autres errent dans la nuit, et puisqu'enfin ils avaient entre les mains ce qui, provenant des cieux, les guidait dans l'orientation des affaires du monde, il fallait nécessairement qu'ils devinssent des enseignants pour les gens. Enfin, il imprima dans leur cœur le sentiment que, s'ils croyaient assurément en cette vérité et s'ils étaient fiers d'y être fidèles, alors Dieu les aiderait, les guiderait et leur donnerait la victoire et les soutiendrait, même si tous les hommes s'opposaient à eux. Voilà ce message, essentiellement, qui est le retour à l'islam. Allons un peu plus vite par rapport au deuxième élément qui reste fondamental. Avec un, ce que nous avons dit, c'est être croyant, c'est d'abord constituer un rapport avec Dieu qui soit un rapport de cœur. La deuxième des choses, c'est revenir à l'islam, c'est revenir à une compréhension d'une responsabilité majeure. Si effectivement on a compris dans la logique même de ce qu'est l'islam, si c'est le dernier des messages, alors ceux qui le portent ont la responsabilité d'en porter témoignage devant tous les hommes. Et le troisième élément, c'est ce qu'on pourrait appeler chez lui la mystique, c'est-à-dire le rapport avec Dieu et la globalité. Et Shumuliya. Shumuliya est constitutif de la pensée de Hassan el-Banna, parce que ce qu'il met en évidence, c'est que d'abord, l'essentiel pour le musulman, c'est d'être avec Dieu et, dans toutes les circonstances, revenir à cela avant toute forme d'institution, toute forme de formalisme. Et il a un passage qui est clair par rapport à la situation du mal dans laquelle on pense que l'analyse que l'on ferait, ou que certains feraient, ou que certains parviennent à faire, nous allons mal parce que nous n'avons pas d'argent, nous allons mal parce que nous n'avons pas de technologie, nous avons mal parce que les situations sociales sont mauvaises. Regardez la réponse de Hassan el-Banna. Beaucoup de gens pensent que ce qui manque à l'Orient, c'est la force matérielle, telle que l'argent, l'équipement, les appareils de la guerre et de combat pour se développer et dépasser les nations qui ont volé ses droits et écrasé sa population. Cela est à la fois vrai et important, mais ce qui est plus important et plus impératif encore, c'est la force spirituelle portant la noble moralité, la personnalité digne et la foi en ses droits, avec leur connaissance, en même temps que la volonté des anciens. Il convient également de développer le don de soi dans la voie du devoir et de la fidélité sur laquelle repose la confiance et l'unité, et d'où enfin naît la force. Fondamentalement, la clé de tout cela, c'est une dimension de spiritualité. Il en était convaincu. Tout le programme éducatif des frères est basé là-dessus. Si tu as la force dans ton cœur, rien d'argent ou de technologie ne peut être suffisant à stopper ce travail de réforme qui doit être le travail des, des musulmans. Et dans cette perspective-là, vous avez un passage, un texte assez intéressant de Yusuf al-Qardawi, hafizahullah, qui met en évidence une chose par rapport à Hassan al-Banna, qui tourne autour de la notion de al-Rabbaniya. La Rabbaniya, c'est très difficile à traduire en français, c'est ce lien qu'établit le croyant avec Dieu dans toutes les circonstances de sa vie et qui fait que tout ce qu'il pense, dit, fait, accomplit, réalise, même dans ses échecs, est lié à lui avec cette intense présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Et Yusuf al-Qardawi dit une chose, c'est dommage parce que j'ai fait des citations sans citer les sources, elles sont toutes là, ce sera l'objet du livre, Inch'Allah. Il dit la chose suivante, Yusuf al-Qardawi, l'aspect de la foi ou de la Rabbaniya occupait dans les programmes d'éducation des frères une place très importante et représentait une préoccupation de premier ordre. Cette prédication était un appel fondé sur la Rabbaniya avant toute chose. Et les prédications fondées sur la Rabbaniya sont entièrement et uniquement tournées vers Dieu et font de sa satisfaction l'objet ultime de l'aspirant. Voilà ce que dit Hassan al-Banna, qui en fut bien entendu membre, et qui rappelle que justement tout ce que Hassan al-Banna, tout ce sur quoi il a insisté, c'est cette dimension profonde de la Rabbaniya, de ce lien avec Dieu en toutes circonstances. Et passant même et considérant même justement de cette dimension que il était l'essentiel du travail sur lequel devait se baser l'ensemble des croyants, en particulier les frères. À tel point effectivement que autour de cette question de foi, il considère qu'à partir de là devraient s'unir les différentes façons de travailler des musulmans. Hassan al-Banna est convaincu que ce qu'il faut, c'est aviver la foi du cœur et aviver ce lien personnel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il est convaincu d'une chose que nous avons déjà vue dans sa vie, il faut dépasser les divisions et comprendre qu'à partir de ce lien-là, il va y avoir des compétences spécifiques dans les uns et les autres. Ceux qui sont plutôt soufis et qui vont développer un comportement. Ceux qui vont plutôt, de cette perspective-là, être des savants et l'ulama, et ceux qui, par ailleurs, vont être plutôt actifs. Et regardez ce qu'il dit de ce point de vue-là. C'est un passage assez intéressant. Ce passage assez intéressant où il développe une pensée au-delà des divisions. Et il dit une chose qui également nous touche, nous, parce que nous le voyons dans notre quotidien en Europe, les divisions qui paralysent. Hassan al-Banna dit la chose suivante. Si Dieu le voulait, et que s'unisse la force savante d'El Azhar avec la force spirituelle des confréries soufis, avec enfin la force agissante des associations islamiques, cette nation n'aurait pas son pareil. Elle dirigerait et ne serait pas dirigée. Elle commanderait et ne serait pas commandée. Elle influencerait autrui et rien ne l'influencerait. Elle pourrait ainsi guider la société vers la meilleure des voies. Regardez la réflexion. Les soufis qui développent une spiritualité, les ulamas qui développent la norme ou le rapport normatif ou référence islamique, et puis les associations qui, elles, développent cette action. Et il faudrait unir ces dimensions-là. Et en même temps, c'est bien ce qu'il a essayé de faire avec l'ensemble de l'organisation des frères musulmans. Une chose également dans cette dimension de la Choumouliya, c'est que Hassan al-Banna est confronté à partir des années 30 et 40 un certain nombre de penseurs qui développent des idées de séparation. C'est-à-dire que la question de la laïcité ou de la sécularisation est une pensée qui va avoir en Égypte également ses partisans, en particulier Taha Hussein, qui va écrire un certain nombre de livres pour développer cette idée qu'il faut séparer le religieux du politique. Vous avez un ouvrage retentissant qui a beaucoup perturbé les savants et les ulamas à El Azhar, qui est le livre de Ali Abdel Razak, qui est écrit en 1925 et qui s'appelle Islam ou Usul al-Hukm, où il développe cette idée que même à l'époque du prophète, il y avait une division entre le religieux et le politique. Il y avait également la constitution de 1923 qui développe l'idée qu'il y a des tribunaux religieux et des tribunaux administratifs. Hassan al-Banna vit dans cette époque-là. Il vit dans une époque où on est en train de développer ceci. Et sa dimension, sa perception de la Choumouliya va venir justement contrecarrer cette idée-là
pour s'opposer à cette idée que l'on divise. Mais non pas que l'on divise, non pas que l'on unisse de façon dogmatique, il a le souci de comprendre les différentes sphères d'application de la charia, par exemple, autant dans la compréhension qu'il a de El Mu'amalat, il en parle très très souvent, en mettant en évidence le fait qu'il y a des prescriptions générales en islam et que son application demande un travail intellectuel extrêmement pointu en fonction de l'état des lieux, ce qu'il n'a jamais manqué de faire où il se trouvait, toujours de considérer l'état des lieux pour savoir quel type de travail il y a à faire pour réformer. Il ne venait pas avec des principes contre la réalité, il analysait une réalité et adaptait par étape la réalisation de ses principes. C'est une façon qu'il a eu de travailler en toutes circonstances et qui, en même temps, ne s'opposait pas à cette vision globale. Et il dit, par exemple, justement dans les Salat et Ta'alim, il met en évidence cette notion globalisante et Shumuliya en disant ceci: l'islam est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie. C'est tout à la fois un état et une nation, ou encore un gouvernement et une communauté. C'est également une morale et une force, ou encore le pardon et la justice. C'est également une culture et une juridiction, ou encore une science et une magistrature. C'est également une matière et une ressource, ou encore un gain et une richesse. C'est également une lutte dans la voie de Dieu et un appel, ou encore une armée et une pensée. C'est enfin une croyance sincère et une saine adoration. L'islam, c'est tout cela de la même façon. Donc cette vision extrêmement large, mais qui, à partir de cette vision large, ne manque pas chez lui d'avoir une concrétisation intellectuelle extrêmement élaborée, jamais simplificatrice, et ça il faut le mettre en évidence également. Ce qui est très important, c'est que par exemple, le Qardaoui également a une remarque extrêmement importante dans l'analyse qu'il fait. Vous savez que le Qardaoui a écrit un certain nombre de textes d'analyse de la pensée de Hassan el-Banna, en particulier l'Usul al-Ishroun, donc les 20 principes de El-Fahm. Bien, il dit une chose très très intéressante: jamais dans la pensée de Hassan el-Banna la perspective globale n'a été en contradiction avec la pensée des priorités des étapes. Jamais. C'est-à-dire que ce que Al-Qardaoui appelle aujourd'hui, que tout le monde cite, Fiqh al-Aulawiyat, est immanquablement la marque spécifique de la pensée de Hassan el-Banna. Toujours la compréhension de ce qui vient avant n'est jamais à mettre après ce qui vient après, justement. Une pensée extrêmement lucide de cette dimension, de Al-Aulawiyat, de attention à mettre les priorités avant les choses secondaires, et surtout une chose même par rapport à la religion, El-Usul, Qabl, El-Furu'a, c'est-à-dire ce qui nous unit dans El-Usul avant ce qui nous divise ou qui peut nous diviser dans El-Furu'a. Ça, c'est une dimension importante. Bien, une autre chose également par rapport à cette pensée. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai ici, parce que je vous vois parler par rapport à la prière. On peut la reculer un peu, Inch'Allah ? Bon, l'autre élément par rapport à cela, c'est la dimension du rapport avec le Coran ou le Sunna. C'est-à-dire que Hassan el-Banna également développe de ce point de vue-là une dimension, une réflexion très très pointue sur le rapport que les croyants ont à avoir avec le Coran et la Sunna. La première des choses bien évidentes, pour lui, se considérant dans la lignée de Salaf al-Salih, c'est-à-dire des trois premières générations qui ont suivi le prophète Aïssatou Salam, il développe cette idée qu'il faut revenir à ces sources-là et en même temps, justement, éviter à tout prix les divisions. Et ce qui nous unit plus que la division des ulama, c'est quoi? C'est le Coran et la tradition du prophète Aïssatou Salam. Donc cette idée pour lui de revenir aux sources a une chose qui reste en lui, qu'il a vu sur le terrain, cette division des musulmans qui est stérilisante, qui est paralysante en permanence, l'impossibilité d'avancer parce qu'on se dispute pour savoir si on doit dire pendant la prière El Fatiha derrière le imam ou si on ne doit pas la dire, tout ce qu'il voyait sur le terrain et qu'il voyait qu'en même temps c'était une chose qui était inacceptable finalement pour quelques personnes qui voulaient mener un travail de réforme. Eh bien, ce qu'il met en évidence, justement, c'est cette volonté d'aller au-delà des divisions. Et là également, il y a un texte qui est intéressant, parce que pour lui, il s'agit effectivement de passer outre ces divisions en reconnaissant une chose. Et ça, c'est aussi une démarche fine. Quelle est-elle ? On veut tous ne pas s'attarder sur ces divisions. Mais encore faut-il avoir l'intelligence de savoir où elles se situent, ces divisions, et de reconnaître qu'elles vont exister. Il ne s'agit pas de dire on est pour l'union et de penser une union sans avoir la lucidité de reconnaître la division. Hassan El-Banna, de ce point de vue-là, le discours également est clair. Je vous le lis parce qu'il le dit mille fois mieux que je ne saurais l'expliquer. Sache, en premier lieu, que le message des frères est un appel large, global, qui n'est lié à aucun groupe et à aucune secte spécifique. Il ne s'aligne pas non plus sur une opinion connue des gens et qui exigerait des devoirs ou une initiation particulière. Certes non, elle s'oriente vers le cœur et l'essence de la religion. Donc ce qui unit. Ensuite, ce qu'il dit. Malgré cela, nous pensons que la divergence de vue dans les ramifications, le furour, de la religion est un fait inévitable, car il est impossible que nous soyons totalement d'accord sur les éléments secondaires, le furour, les ramifications, les opinions, les écoles juridiques. Et ce, pour de multiples raisons. Parmi elles, il y a l'existence des différences de capacité intellectuelle quant à l'extraction des règles de la religion à partir des textes qui s'appellent, justement, dans Rousseau le Père, l'estimba de l'ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. La connaissance ou l'ignorance des preuves ou encore le pouvoir de se plonger dans les profondeurs de la sémantique. Donc il reconnaît simplement deux savants avec des compétences qui ne sont pas pareilles vont forcément aboutir à des conclusions qui ne sont pas sur les fourrures de même nature. Donc la division, elle est immanquablement présente dans leur travail. Il y a encore la différence de capacité à établir des liens entre les situations. Et la religion, ce sont des versets, des hadiths et des textes que l'intelligence ou l'opinion doit commenter dans les limites de la langue et de ses règles, de même dans lesquelles les gens ont des capacités très diverses. La divergence est donc inévitable. Regardez l'intelligence claire du propos, au sens où on veut l'union, mais reconnaissons la division. Mettons la division à sa place, mais mettons au-dessus d'elle l'union autour de quoi ? Le Coran ou la Sunna, et acceptons le fait que nous allons avoir une division. Et il répète, bien entendu, les propos de Rachid Reza, qui sont connus, on les a attribués à lui, qui dit « Travaillons ensemble sur ce sur quoi nous sommes d'accord et excusons-nous les uns des autres ou respectons l'opinion des uns des autres dans ce Fimar Talafnafi, c'est-à-dire dans ce que nous avons, dans ce qui nous divise de ce point de vue-là. » Et donc, cette réalité, elle est pour lui fondamentale. L'appel de l'union, la reconnaissance des éléments de la division. Je viendrai tout à l'heure sur la notion de commentaire ou le tafsir qui a une place importante chez Hassan El-Banna. Barakallahu fikoum.